RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, des soldats ougandais en renfort de l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Des militaires ougandais déployés hier à Mahagi, dans la province de l'Ituri. La RDC, où deux personnalités étaient convoquées par les autorités hier. Le responsable catholique Monseigneur Donatien de Cholet, le secrétaire général de la CENCO qui n'a pas répondu à la convocation. Et puis Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ex-président Kabila, qui a quant à lui répondu, vous l'entendrez. L'objectif au Gabon, faire signer le texte par tous les candidats à la présidentielle d'avril. Une charte de bonne conduite rédigée par une formation politique et une association a été présentée hier à Libreville. Une candidature de plus au sein de l'opposition camerounaise en amont de la présidentielle d'octobre. Joshua aussi a été investi par le SDF hier lors d'un congrès à Yaoundé. Et puis un nouveau coup dur pour les supporters malgaches, le troisième en l'espace de 2 ans. Et sur le même sujet, la Confédération africaine de football refuse à nouveau l'homologation du stade Baréa d'Antananarive, pourtant flambant neuf. 2 semaines après l'arrivée de soldats ougandais à Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri dans l'est de la RDC, un nouveau déploiement ougandais a donc eu lieu hier à quelques 150 km plus au nord, dans la ville de Mahagi. L'armée ougandaise qui combat normalement les rebelles ADF aux côtés de l'armée congolaise, mais son champ d'action semble manifestement s'élargir désormais, Coralie Pierret.
Une colonne de camions, de 4x4 et de véhicules armés de mitrailleuses. Ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent le poste frontière de Mahagi, une localité au nord de la province de l'Ituri, en chantant, sous l'œil surpris des habitants. L'objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations, confirme le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, sans donner plus de détails. Les soldats ougandais vont-ils se battre? Et si oui, contre qui? À l'origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l'opération conjointe Shujaa pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais alliés à l'État islamique. Sauf que le territoire de Mahagi n'est pas dans la zone d'action des ADF, c'est plutôt celle en partie de la CODECO et des Zaïre, deux milices locales d'autodéfense communautaire. Il y a environ 2 semaines, les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en hommes qui coïncide avec l'expansion plus au sud du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. La frontière entre la RDC et l'Ouganda est notre zone d'influence. Rien n'y arrivera sans notre permission, a rappelé le chef d'état-major ougandais et fils du président Museveni sur son compte X personnel. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
La RDC, où l'opposant Seth Kikuni a retrouvé la liberté hier soir. Lui qui était détenu depuis août 2024, condamné à 1 an de prison. Le président du parti piste pour l'émergence du Congo. Il bénéficie d'une libération conditionnelle à la suite d'une grâce présidentielle. Tout comme un autre opposant, Mike Mukebayi, libéré lui après une détention de près de 2 ans. À Kinshasa, Monseigneur Donatien de Cholet était convoqué par les autorités hier. Le religieux catholique, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, il était invité à s'expliquer sur un communiqué de la CENCO qui dénonçait récemment, je cite, « la stigmatisation et la chasse aux Congolais d'expression swahilophone à Kinshasa et dans plusieurs régions ». Mais pour une raison encore inconnue, Monseigneur Donatien de Cholet n'a finalement pas répondu, présent devant Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'avait convoqué. Tout comme il avait également convoqué d'ailleurs une autre personnalité, l'homme politique Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani Chadari, lui, était bien au rendez-vous et RFI lui a demandé ce qui s'était dit lors de cet entretien.
Il voulait avoir des précisions sur notre communication. Il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Et nous avons dit que nous nous communiquons pour la population. Nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche. Nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani. Nous avons travaillé comme partie de l'opposition, comme on l'a toujours fait. Mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre.
Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD au micro de Pascal Moulégois.
Libreville, 104 FM.
Un texte pour baliser et encadrer la période électorale qui va s'ouvrir au Gabon. Une charte de bonne conduite rédigée par un parti politique et une association. Elle a été présentée hier à Libreville, en amont donc de la campagne et de la présidentielle prévue le 12 avril. Sans valeur contraignante, évidemment, l'objectif affiché par ses auteurs est de lutter contre le tribalisme, le régionalisme et la haine politique. Yves Laurent Goma.
La charte est portée par le Parti patriotique gabonais et le Mouvement des citoyens du Gabon. Une initiative en réaction à des dérives constatées dans le pays à 6 semaines de la présidentielle. Alain Simplice Bungwere, président du Parti patriotique gabonais.
Il y a des attaques qui fusent ça et là, des clans qui se forment. Nous arrivons à une montée du tribalisme. Toute chose qui ne concourt pas à la paix et à l'unité nationale qui est chère à notre pays.
Exemple marquant, il y a 2 semaines, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biliebinze a été séquestré et interdit de tenir des causeries politiques dans 2 villes du nord du pays. Pour Alain Simplice Bungwere, cette charte est donc un pacte de non-agression.
Il s'agit d'appeler tous les candidats à l'élection présidentielle au respect de leurs antagonistes, de s'abstenir des propos injurieux, d'incitation à la violence, des calomnies, que tout le monde puisse respecter les résultats des urnes et, en cas de contestation, se retourner vers les instances habilitées.
Des copies de la charte ont été remises au Conseil national de la démocratie, une institution qui regroupe tous les partis politiques. Objectif, la faire signer par tous les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
L'idée d'un front uni de l'opposition qui semble s'éloigner au Cameroun. Elle avait été évoquée, cette idée, mais cela paraît compliqué, pour l'heure du moins, au vu des candidatures qui se multiplient pour la présidentielle d'octobre prochain. Plus d'une dizaine de candidatures déjà enregistrées au sein de cette opposition camerounaise. La dernière en date, hier, celle de l'opposant Joshua aussi, investi par son parti, le Social Democratic Front, au terme d'un congrès extraordinaire organisé à Yaoundé. Il faut dire qu'il était le seul candidat, Richard Onanena.
Des sonorités traditionnelles font vibrer un palais des sports à moitié vide. Seul candidat en lice, Joshua aussi a été investi par acclamation devant une foule acquise à sa cause. Mama Boukar, président du SDF dans la région de l'extrême nord.
Je trouve que Joshua a toutes les qualités de représenter le Social Democratic Front pour cette élection présidentielle.
Quelques minutes après son investiture, Joshua aussi a tout de suite tenu son premier discours de candidat. Il s'est dit prêt à prendre les rênes du Cameroun.
Je vous dis ce soir, ensemble nous allons construire un gouvernement au service du peuple, pas de l'élite qui accapare nos terres et nos richesses.
Le SDF propose un projet politique axé sur 5 points, notamment la réforme des institutions du pays. Le SDF promet surtout de résoudre la crise anglophone en 100 jours. Selon Gladys Dioko, coordinatrice des femmes du SDF dans la région du littoral, son parti est la formation politique qui peut mettre un terme à la crise anglophone.
We've always stood for a federal government.
Nous avons toujours milité pour un État fédéral. C'est ce que veulent les anglophones, même si certains appellent à la sécession. La plupart d'entre eux veulent rester liés à leurs frères francophones. La solution du SDF, c'est le fédéralisme.
Candidat en 2018, Joshua aussi avait terminé 4e de la présidentielle avec moins de 4% des voix derrière Kabra Libi et Maurice Kamto, tous deux candidats déclarés à l'élection d'octobre prochain. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Le regain de tension qui se confirme au Soudan du Sud entre l'armée du président Salva Kiir et les forces de l'opposition loyale au vice-président Riek Machar. L'armée a bombardé cette semaine des positions de l'opposition et des positions de la White Army, milice communautaire qui la soutient. Regain de tension malgré l'accord de paix conclu en 2018, il y a presque 7 ans maintenant. Les derniers hommages hier en Namibie à Sam Nujoma, père de l'indépendance et premier président du pays, décédé le 9 février à l'âge de 95 ans. Il a été enterré dans un mémorial situé près de la capitale Windhoek. Des milliers de Namibiens et de nombreuses personnalités du continent avaient fait le déplacement le 1er mars, décrété jour férié pour l'occasion en Namibie. Le temps du bilan à Madagascar après le passage du cyclone tropical Ondé. Il s'est éloigné progressivement des côtes sud de la grande île hier dans l'après-midi, mais il a charrié sur son passage d'importantes précipitations. Selon le Bureau de gestion des risques et des catastrophes, 3 morts ont été recensés. Une personne est portée disparue, 42 blessés et environ 39 000 sinistrés. Madagascar, où les supporters des Baréas encaissent une nouvelle Déception, ils devront encore patienter avant de voir un match officiel à domicile dans le stade Barea d'Antananarive. Construit à grands frais en 2021, il ne répond pourtant toujours pas aux normes des instances du foot. Une inspection de la Confédération africaine de football, la CAF, réalisée mi-février, s'est conclue sur un nouveau refus d'homologation. Guilhem Fabry, déjà le troisième en moins de deux ans.
Madagascar ne jouera pas ses deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile comme initialement prévu, mais au Maroc. Si la CAF note des améliorations au niveau de la sécurité du stade Barea, l'état de sa pelouse laisse encore à désirer. Le secrétaire d'état chargé de cette infrastructure, Gérard Andria Manoissou, regrette une multiplication de normes selon lui trop difficile à appliquer.
C'est dur de suivre le rythme. Il faut qu'à un certain moment la CAF s'arrête. Parce qu'un pays comme Madagascar, qui a fait des efforts énormes, on a décidé de construire ce beau stade sur les normes de FIFA. Donc c'est pas logique que la CAF n'homologue pas un tel stade.
Construit en 2021 pour un coût de 77 millions de dollars, le stade a accueilli quelques matchs officiels avant qu'une bousculade ne fasse 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, entraînant le retrait de l'homologation. Depuis lors, Lalaina Rakotunrazak, président d'un groupe de supporters, attend de revoir son équipe.
C'est triste. Ça fait presque deux ans qu'on n'a pas eu de match officiel au stade. Et c'est la troisième fois que le stade n'a pas été homologué par la CAF. En deux ans, si quelque chose n'a pas bougé, c'est qu'il a vraiment un problème. Peut-être qu'il n'est pas de la compétence. Peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de moyens financiers. On espère que le président de la République prendra les choses en main aussi.
Des techniciens de la CAF et de la FIFA sont attendus ces prochains jours à Madagascar pour aider à restaurer la pelouse avant une nouvelle inspection prévue à la fin du mois. Guillaume Fabriant, Antananarive, RFI.
Allez, avant de vous laisser retrouver Julien Coquelle-Rohem pour RFI Matin, un mot sur le FESPACO, le festival du cinéma de Ouagadougou qui a livré son verdict hier. L'étalon d'or de Yenga revient au film Katanga ou la danse des scorpions du Burkinabé d'Annie Kouyaté.